à qui je laisse immédiatement la parole.
Ça, c'était court. Il m'a dit que ce serait court, mais je ne savais pas que ce serait si court. Bien, bah écoutez, je vais quand même alors me situer un petit peu, parce que je ne pense pas que vous connaissez tous mon parcours, il y en a peut-être certains. Donc je voudrais juste un petit peu me situer par rapport à mon thème. Donc vous savez que je vais traiter ombre et lumière de l'inconscient. Donc si c'est pas parce que vous me connaissez, je veux espérer et croire que vous venez parce que vous aussi vous soupçonnez qu'il n'y a pas que de l'ombre dans l'inconscient. Mais on va en parler dans 2 minutes. En tous les cas, c'est cette idée que j'ai envie d'explorer avec vous. C'est quelque chose que j'ai dont je témoigne dans mon premier bouquin qui s'appelle « Dis-moi si je m'approche », c'est le premier. Et en plus d'en témoigner, j'ai envie d'en parler et c'est quelque chose qui est devenu une très très grande conviction personnelle. Et la conviction, et comme ça j'entre immédiatement dans le débat, dans le thème du débat, j'ai pas besoin de vous dire, vous tous qui êtes intéressés par la psychanalyse, sinon vous seriez pas là, je vais pas faire un long topo sur l'inconscient, hein. J'ai donc pas besoin de vous dire que très traditionnellement et très classiquement, on sait que l'inconscient, c'est le lieu du refoulé et que ce qui se refoule, c'est en général ce que nous ne sommes pas capables de gérer. Et qu'en fait, c'est une forme de protection, pour ne pas être détruit par des pulsions terribles qui, si elles n'étaient pas refoulées, arriveraient à nous détruire. Bon, alors je fais vraiment très grossièrement et très bref, mais l'idée fondamentale reste néanmoins qu'on la prenne de manière plus sophistiquée ou moins sophistiquée. L'idée fondamentale, c'est que c'est le lieu du refoulé de tout ce qu'on ne peut pas gérer et en général de choses terribles et très destructrices. Ce que j'appellerais l'ombre, tout ce qui serait notre ombre. Et moi, j'ai évidemment rencontré la psychanalyse avec cette même croyance, évidemment qui n'est pas fausse, hein, comprenons-nous bien. Je ne suis pas en train de remettre en question la réalité de l'inconscient et du refoulé des pulsions destructrices et négatives et ingérables par notre compétence humaine du moment. Donc, je ne remets évidemment pas ça en question. Et quand moi, j'ai commencé à entrer en contact avec la psychanalyse, c'est parce que je passais mon temps, je vais faire court aussi, à me tromper d'amour. C'est-à-dire, chaque fois que je m'allongeais, ça se finissait très mal. Excusez la métaphore. Donc, j'ai fini par me dire qu'il faudrait m'allonger sur un divan où ça pourrait se terminer bien. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, grosso modo, ce qui m'a conduit sur un divan psychanalytique, c'est que la position horizontale n'était pas longtemps jouissive. Voilà. Alors, je me suis... voilà. Donc, j'ai fini sur un divan de psychanalyste, un psychanalyste lacanien, donc vraiment pur et dur. C'est ce que je voulais, j'étais moi-même, j'avais fait une licence de psycho, tout ça. Et donc je suis allée lui raconter tout ce que... Enfin, j'ai essayé de sortir tout ce que je refoulais. Enfin, j'ai essayé, pendant qu'il se taisait, de... bon, voilà. De faire ce que je pensais être la psychanalyse... Enfin, ce que devait être une psychanalyse, c'est-à-dire d'aller chercher les plus choses, les plus horribles que je pouvais trouver, que je risquais de refouler, etc., etc., etc. Bon, ça a très bien marché, hein. Ça a très bien marché pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, effectivement, je me suis allégée comme ça de plein de choses refoulées en faisant tout ce qu'il faut comme transfert sur cet homme gentil au demeurant et pas gentil de temps en temps et tout ça que vous connaissez par cœur. Donc, je fais court. Et puis, est arrivé le moment où sur le divan de psychanalyse, je me suis détendue au bout de 2 ans. Hein. Bon, voilà. C'est pas si horrible que ça, l'horreur. On vit avec, on la gère, finalement, papa, maman, tout ça. Donc, finissant par me détendre, j'ai laissé le champ plus libre à mon refoulé. Et donc, ma mémoire a commencé à rouler beaucoup plus en roue libre. Et je me suis retrouvée avec des mémoires qui était peut-être douloureuse à affronter, mais qui n'était pas du tout du même ordre et que je n'arrivais pas à dire. Alors, après, en y réfléchissant bien, en me disant, mais pourquoi je n'arrive pas à exprimer ces choses qui affleurent, qui me rendent triste, mais qui ne sont pas du classique, que j'ai pas de référent classique. Alors là encore, je vais faire court parce que c'est pas exactement le thème de la conférence, donc je voudrais arriver à la partie suivante. Mais n'empêche qu'il faut en passer par celle-là. Et en y réfléchissant bien un matin, j'ai dit, lumière, comme il y a du verbal et qu'il y a du préverbal, eh bien ce qui est préverbal ne peut pas s'exprimer par les mots, c'est pas possible. Donc ça a été ma grande thèse de l'époque, hein, donc je raconte tout ça, et j'arrive à mes séances et je dis, verbal, préverbal, je m'engueule avec mon analyste, il y a des choses que le corps, que seul le corps peut dire. Le corps, grand tabou de la psychanalyse. Enfin, en tous les cas, des psychanalystes. Le corps, on peut en parler, mais le laisser vivre sur le divan, alors ça, c'est l'interdit absolu. Je veux dire, en tous les cas, bon, et mon psychanalyste, pareil, beu d'abord, et puis de moins en moins beu. Il me dit oui, oui, avec des onomatopées. Et puis, un jour, je lui dis, écoutez, si on ne peut pas travailler à laisser cette mémoire du corps parler, je me lève, je m'en vais, c'est terminé. Je dois vous dire qu'en parallèle, je commençais à connaître un petit peu ce que je pourrais appeler la psychanalyse holistique. Je commençais à faire connaître... D'abord, j'avais commencé un petit peu mon chemin spirituel. Je commençais à entendre parler de thérapie alternative. Je vous parle d'il y a 25 ans, hein, genre, je ne devrais pas... Faut pas compter. Hein. Donc... je vous parle, il y a longtemps, longtemps, longtemps. Hein, vous voyez, les années 60, 70, même pas 80. Et je me dis, il y a d'autres thérapies. Tant pis. Si la psychanalyse n'est pas finie, de toute façon, elles ne sont jamais finies. Donc, ça ne s'en terminera pas là. Et puis, ce sera très bien de ne pas en terminer là, parce que j'en ai marre. Alors, après lui avoir dit, papa, maman, tout ça, ça va bien, quoi, ça suffit. Donc, j'ai fini par le menacer, par dire que bon, ben je termine là ma psychanalyse. Et grande surprise, j'ai eu la chance de tomber sur un psychanalyste courageux et audacieux et quasiment révolutionnaire pour l'époque, qui lui aussi avait parallèlement, évidemment, sans que je le sache, réfléchi à la question du corps. Il travaillait avec Françoise Dolto, il travaillait avec... et surtout, il avait découvert Franz Wellmann, qui est le fondateur de l'aptonomie. L'aptonomie, pour ceux qui ne le savent pas, ça, c'est la science du contact. Et donc, c'est toute une thérapie fondée sur redonner au corps la possibilité de ne pas réagir avec les trois F, fear, flight, fight, c'est-à-dire la fuite, le combat ou la paralysie. Et que toute l'idée de Franz Wellmann, c'était qu'il faut pas seulement guérir justement le verbal, mais permettre au corps de retrouver... une présence non réactionnelle à l'autre, et c'est ce qu'il appelle le corps de sécurité, le corps de contact. Donc, mon analyste lacanien, entre-temps, avait donc lui aussi réfléchi à ces questions et rencontré donc Françoise Dolto et Wellmann. Et il me dit, eh bien, à la prochaine séance, nous irons voir ce corps. D'accord. C'était très effrayant, vous imaginez bien. C'était extrêmement effrayant. J'étais jeune, il était plus jeune qu'aujourd'hui, cet analyste et tout, bel homme de surcroît. Et on s'est dit, comment on va faire ce truc-là? Eh bien, nous avons tous les deux plongé. Et on a réellement plongé, parce que je sais que pour lui, j'étais sa première patiente où il prenait le courage de réintroduire le corps sur le divan, et moi, de prendre le risque d'aller voir jusqu'où on dit oui et où est-ce qu'on dit non. Eh bien, ça a été extraordinaire. Ça a été une expérience extraordinaire où on est passé sur ce divan lacanien à faire des revécus de naissance, d'abord, et ensuite de l'aptonomie, vraiment de l'aptonomie du corps avec du toucher physique. Alors, je me suis calmée pour encore un an. J'ai dit, bon, ça y est, maintenant, alors mon corps a pendant un an retrouvé son corps de contact. Bon, si ça vous intéresse tout à l'heure, je veux bien reprendre ce morceau, s'il y en a que ça intéresse, mais c'est pas le thème de ma conférence, je vais vous parler de la suite, mais si ce bout-là vous intéresse, c'est avec plaisir que je le reprends tout à l'heure. Donc, un an de plus passe, et mon corps commence à... Je faisais du yoga aussi à l'époque, donc en parallèle, vous voyez, il y avait ces deux parallèles qui commençaient dans ma vie. Je faisais déjà du yoga, donc il y avait ça, et puis il y avait le travail avec l'autre, le corps avec l'autre et le corps avec mon intériorité. Donc, tout ce travail se faisait pendant... Et au bout d'un an, je me suis sentie encore mieux avec un corps... qui arrêtait de dire non, qui arrêtait de dire oui de peur de pas savoir dire non, et qui arrêtait de dire non de peur de pas savoir, ne sachant pas dire oui. Vous voyez ce que je veux dire? Là aussi, vous voyez comment ça fonctionne. Et donc, je me suis retrouvée avec un corps tout à fait capable de dire oui, parce qu'il savait qu'il serait capable de dire non en temps voulu. En temps voulu, il y a le temps de dire non. D'abord, on peut laisser l'autre s'approcher. Et on peut s'approcher de l'autre. On aura toujours le temps de dire non, c'est ce que j'enseigne aujourd'hui. Mais le corps, il a besoin de le savoir. Nous, on peut se le dire, mais le corps, il ne le sait pas vraiment. Donc, au bout d'un an, mon corps, il avait compris le message. Et ça allait beaucoup mieux. Et on s'est retrouvés. Alors, à ce moment-là, je me suis encore plus détendue sur le divan. Beaucoup plus détendue. Et puis, les yeux au plafond. Alors, parce que j'en ai eu marre aussi de faire des revécus de naissance 3 fois par semaine. Hein. Bon, ça va. Une fois, ça y est, on est né, on est bien, le corps, tout. Alors, sécurisez-vous, je vous touche, ça va. Au bout d'un moment, on se fatigue de ça aussi, je veux dire. Ça va, on a besoin d'être sécurisé, on retrouve la bonne mère, le bon père, tout ça. Bon, au bout d'un moment, ça va. On pourrait voir s'il y a autre chose à explorer. Enfin, moi, je suis j'ai besoin toujours d'aller plus loin. C'est pour ça que mon livre s'appelle « Dis-moi si je m'approche », et il n'y a pas de fin. Donc, au bout d'un moment, mes mémoires commençaient à toucher autre chose. Alors là, ça a été beaucoup plus difficile parce que mes mémoires commençaient à toucher des zones qui n'étaient pas de mon histoire. Donc évidemment, on peut parler d'inconscient collectif, on ramène Jung 5 minutes sur le divan lacanien, on cause, on discute, et après on se dit combien c'est vrai quand même ça? Est-ce que c'est que collectif ou est-ce que ça me concerne individuellement? Est-ce que je suis juste en train d'attraper comme ça quelque chose du... Où est-ce que j'ai réellement vécu ces choses-là? Puisqu'elles m'ont l'air tellement réelles dans ma mémoire, elles ont l'air tellement vraies dans mon corps. Et alors là, mon psychanalyste n'a pas suivi. Parce qu'évidemment, on touchait au grand, grand problème de la réincarnation. Et en fait, on touchait au problème de l'origine de la mémoire. Où s'origine la mémoire? Alors, on s'était déjà mis d'accord sur la mémoire qu'on appelle aujourd'hui un peu pompeusement la mémoire cellulaire. On s'était mis d'accord sur du préverbal, du cellulaire, une mémoire du corps. Évidemment, à l'époque, on n'en parlait pas, mais aujourd'hui, on sait que cette mémoire cellulaire, elle s'inscrit dans du génétique et on parle d'une mémoire de nos ancêtres. Donc aujourd'hui, la généalogie est tout à fait à pignon sur rue, tout va bien, à l'époque on n'en parlait pas. Mais en tous les cas, on avait déjà incorporé ce bout-là. Mais finalement, la grande question, et c'est à celle-là que j'ai envie de, de soumettre à une réflexion commune, c'est où s'origine la mémoire? Qui va décider où elle commence? Et là, on entrait dans un terrain où on touchait au mystère de ce que Marie Balmary appelle la divine origine, la possible divine origine du sujet. Alors aujourd'hui, c'est à nouveau, il y a déjà des livres là-dessus, mais c'est une question drôlement, drôlement importante. Moi, à l'époque, j'avais inventé un terme, j'appelais ça la mémoire d'âme. Enfin, je l'ai toujours gardé, et je dis aujourd'hui avec le recul que je commençais à toucher à ce que j'appelle aujourd'hui, très tranquillement, la mémoire d'âme. Et que, au niveau de cette mémoire d'âme, nous avons également des choses à réparer, des blessures, c'est peut-être de là qu'est venue l'expression se promener comme une âme en peine, et qu'il y a peut-être aussi des peines d'âme qui n'ont rien à voir, ou plutôt pas directement à voir avec notre histoire biologique du moment, encore que, si on prend le point de vue qui est le mien, qui est un point de vue kabbaliste, encore que notre histoire du moment n'est alors qu'une conséquence de notre passé. Donc, si elle a quelque chose à voir, mais pas de la manière classique de la relation du biologique à notre inconscient, donc qui originerait la mémoire à papa-maman, voire nos ancêtres, et basta. Et donc là, je me suis retrouvée avec ce grand, grand, grand questionnement sur le divan. Et ça n'allait plus du tout. C'est-à-dire que mon psychanalyste m'expliquait que c'était comme du rêve éveillé. Que toutes ces mémoires, c'était du rêve, c'est comme du rêve éveillé. Il ne disait pas fantasme parce qu'il était poli et qu'il savait que j'allais réagir très fortement. Mais bon, on n'était pas loin du fantasme. Allez, disons de la fantaisie psychanalytique. Bien, alors je vais faire court parce que je raconte toute cette aventure dans mon premier bouquin. J'ai décidé d'arrêter ma psychanalyse là, mais sereinement, puisque de toute façon, on avait fait un très beau bout de chemin ensemble. Et c'est là que ma vie a pris une direction plus spirituelle. Et je me suis dit, je vais aller chercher dans le silence intérieur les réponses que je ne trouve pas à l'extérieur de moi-même. J'ai commencé tout un chemin de méditation, je suis allée très loin, donc tout ça, je fais un petit peu court. Et je me suis engagée dans tout ce qu'on pourrait appeler les traditions non dualistes. Ma tradition, c'était l'Inde. De toute façon, à l'époque, c'était l'Inde, la mode. Bah oui, c'est pour ça, c'est aussi un témoignage vraiment d'époque, parce que aujourd'hui, tout le monde est bouddhiste. Ben aujourd'hui, c'est le bouddhisme, mais à l'époque, c'était l'hindouisme. Donc, on prenait son petit baluchon, on partait sur les bords du Gange en espérant trouver les solutions auxquelles ne répondaient pas nos parents, mais nos psychanalystes non plus, et nos thérapeutes non plus. Et moi, j'étais arrivée à l'endroit où mon psychanalyste disait « Stop ! Là, non seulement je ne veux pas répondre, mais je ne veux pas envisager la question. » Mais ça, c'était... Donc, qu'on n'ait pas de réponse là-dessus, c'est tant mieux. Mais qu'on ne veuille pas garder cela comme un point d'interrogation empêche d'explorer ce territoire. Et ça, c'est ce qui m'est moi le plus insupportable. Parce que avoir dans le Talmud, qui est un petit peu donc mon background, on dit que la réponse est le tombeau. Effectivement, d'avoir des réponses, ça limite, on est arrêté. Mais que les psychanalystes ne veuille pas garder le point d'interrogation sur la question, ça, c'était pas acceptable. C'est pour ça qu'il fallait que j'aille chercher ailleurs. Donc, petit baluchon, les bords du Gange. En fait, j'ai pas dû aller jusqu'au bord du Gange. Le Gange est venu vers moi, car j'ai rencontré un maître indien, et j'ai commencé donc tout un chemin d'études de philosophie orientale, et puis de pratique, et d'assaise, et d'assise, jusqu'au moment où je suis allée jusqu'au bout, et j'ai été jusqu'à prendre la robe orange. Donc, c'est pour vous dire que je suis vraiment allée jusqu'au bout. Donc en 82, j'ai pris la robe orange, j'avais eu une grande expérience d'illumination, c'est-à-dire où réellement j'avais touché l'endroit où il n'y a pas de frontières, où il n'y a plus de frontières et où on se dit, s'il n'y a plus de frontières, c'est qu'il existe une mémoire qui est universelle, mais dans laquelle je baigne et de laquelle je suis issue, divine origine, et donc dont je suis porteur et qui a pu causer ce que j'appelle cette réalité de l'âme en peine que j'ai aussi à aller regarder. Mais j'avais découvert en même temps que l'âme en peine, pendant ces méditations, qu'il y avait aussi une âme en joie très forte. Car j'ai pas besoin de vous dire qu'à partir du moment où on entre dans ces lieux-là, ben je touchais à ce qu'on appelle très classiquement les extases mystiques. Je fais vite parce que j'ai 50 minutes, hein, donc je fais très très vite. Donc excusez-moi d'être un peu grossière et didactique sur les termes et de ne pas les expliciter au passage, mais vous comprendrez que ce n'est qu'ouvrir le débat. Et donc je me suis retrouvée à découvrir que non seulement il y avait effectivement un lieu de mémoire pour mon âme, mais aussi un lieu de joie. C'est-à-dire que je découvrais que dans ce monde intérieur et dans cet espace infini dans lequel je n'étais plus limité par les frontières de ma conscience, où la conscience s'élargit comme ça et puis on la laisse élargir à l'infini, ce que je n'arrivais pas à faire sur mon divan, eh bien on capte, on attrape des informations, des choses, etc., qui aussi me mettaient dans une très 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 grande joie. Alors évidemment, vous connaissez la paix intérieure, la sérénité, le nirvana, la béatitude, le satori. C'est traditionnel, c'est fait pour ces chemins-là. C'est pour trouver ces lieux-là. Alors je les avais trouvés. J'avais donc une grande expérience d'illumination en 1982. Et je savais que non seulement ça existait, ce lieu de mémoire infinie, et qui poussait le questionnement jusqu'à la possible divine origine de l'humain, mais que dans ces lieux-là, on découvrait la paix, le bonheur, la joie, la sérénité, la trame, tout ce qu'on voudra de bien comme ça, où on n'est plus embêté par la dualité, les contradictions et les oppositions de l'existence. Bon, alors, ça, j'aurais pu m'arrêter là. Zen. Ça se disait pas zen à l'époque, c'était nirvana. C'était, à l'époque, c'était pas zen, c'était nirvana. Alors, je suis revenue en France après être passée donc sur les bords du Gange, et je me suis rendu compte qu'arrivée là, cette joie, cette paix, tout ça, d'abord, elle n'était pas partagée par tout le monde, et que lorsqu'elle n'était pas partagée, ben, je ne savais pas quoi faire avec ceux qui n'y étaient pas. Ben oui, ben, c'est très embêtant. Alors, ça, c'est le deuxième livre. Le deuxième livre, c'est cette partie-là. C'est juste pour que pour vous situer, parce que comme je vais raconter très court, le deuxième livre raconte ce retour où la paix intérieure, oui, la connaissance de la joie, oui, et le rapport à l'autre, toujours aussi handicapé, lorsque on ne pouvait pas être en union mystique, silencieuse, et ce qu'on appelle traditionnellement l'amour universel, c'est-à-dire aimer tout le monde, pareil, et voir le divin en chacun. Alors on voit le divin en chacun, c'est formidable, mais savoir s'il aime le chocolat ou le café le matin n'a strictement aucune importance. Et absolument hors champ. Et alors comment on fait? Alors c'est là que j'ai fait donc ce deuxième parcours de mon chemin où je me suis demandé, alors voilà le titre du second, c'est « L'un n'empêche pas l'autre ». Donc vous connaissez la conclusion, vous l'avez déjà. Ma conviction profonde, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Mais pour en arriver là, pour arriver à cette conviction et à cette capacité de la vivre, cette conviction, il a fallu confronter la double réalité de notre amour, de notre nature humaine et de cet amour divin, dans lequel tout va bien. Enfin, de cet amour divin intérieur, ce petit, appelez ça comme vous voulez, je dis amour divin pour lui donner un titre, ou un mot, ou un nom, mais enfin de cet endroit de conscience universelle, comme ça, de lumière infinie, absolue, de l'absolu, voilà. De cette conscience de l'absolu. Utilisons le terme d'absolu. Donc, dans l'absolu, tout allait bien. Et dans le relatif relation, hein, c'était pas tout à fait, hein. Comment on fait les deux? Eh bien là, il a fallu que je confronte vraiment ce problème de la psychanalyse. Enfin, là, il a fallu vraiment, et c'est ça notre débat, que je me pose la question sur la conscience, la mémoire et la réalité de cette double polarité de l'inconscient. De la conscience, donc de l'inconscient, parce que la conscience n'est que l'inconscient devenu, enfin, sorti de l'inconscience, après tout. C'est tout la même chose à des degrés différents. Hein, ça, c'est pas non plus. Je sais que je m'adresse à des spécialistes, donc je fais, enfin, en tous les cas, des amateurs éclairés ou intéressés, donc je fais vite. Le conscient, ça n'est que de l'inconscient qui s'est réveillé de son inconscience. Donc c'est toujours de l'inconscient, à un autre degré de conscience. On est bien d'accord? Vous me suivez? Eh bien, à cet autre degré de conscience, qu'est l'inconscient qui se réveille, je me suis posé la question de. L'autre de cet absolu de la conscience, que les traditions appellent la superconscience, parce qu'il faut donner des mots pour pouvoir se parler, et qui est cet endroit où on est dans la conscience de l'infini de la lumière, quand on est là, dans la conscience de l'absolu, dans lequel il y a la paix, la sérénité, et la joie, et l'extase, et tout. Et ma grande question, et c'est celle-là qui est ce dont je veux débattre avec vous, ma grande question, c'est est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un refoulé de la superconscience dans notre inconscient? C'est-à-dire, est-ce que de la même manière que l'inconscient est le réservoir de nos ombres, n'y a-t-il pas un lieu qui est le réservoir de notre possibilité de joie et de lumière? Est-ce que nous ne refoulons pas, pour le dire autrement, est-ce que nous ne refoulons pas tout autant ce qui peut nous détruire que ce qui peut nous obliger à porter plus de vie, plus de pulsion de vie? Et dans pulsion de vie, je mets plus de compétences, de joie de vivre. Joie de vivre, ici-bas, dans la dualité, dans la relation à l'autre, et non pas dans l'absolu. Et est-ce que, ultimement, les chemins spirituels qui tendent au satori, au nirvana, etc., ne sont pas tout autant un refoulé de la joie de vivre ici-bas que l'autre, dans l'inconscient, que notre autre inconscient est un refoulé de ce qui peut nous empêcher de vivre ici-bas tout autant confortablement? Est-ce qu'il n'y a pas deux zones dans notre inconscient, une qui refoule l'ombre, une qui sert de refoulé à l'ombre et une qui sert de refoulé à la lumière? à la joie. C'est-à-dire que l'une nous protège de la souffrance. Est-ce que l'autre ne nous protège pas de la joie de vivre ? Parce que la joie de vivre est tout aussi difficile à vivre que la souffrance. Voilà ce que j'ai découvert. Qu'on est très très mal, on est peut-être plus mal préparé à la joie d'ailleurs qu'à la souffrance. Car à la souffrance, on s'y habitue avec le temps. Et on apprend à gérer cette souffrance. Mais est-ce qu'on est aussi préparé à la joie ? Et avec tout ce que implique de responsabilité de porter la pulsion de vie et d'être un être vivifiant, un être de joie, ça demande des grandes responsabilités. Enfin, je veux dire, ça implique beaucoup, beaucoup de travail d'être quelqu'un de la joie de vivre. Ça implique une énorme responsabilité. Ça implique de devenir quelqu'un de vivifiant et de quelqu'un qui résiste constamment, constamment, parce que c'est tous les jours à refaire, qui résiste constamment, constamment aux pulsions mortifères. Dans la dualité, pas dans la fuite vers l'absolu. Ça, c'est facile. Enfin, c'est facile. Enfin, ça, c'est faisable. Je ne dis pas que c'est facile, facile, mais avec un peu de musculation de ses chambres intérieures et de son silence intérieur, on y arrive. Mais y arriver dans la relation à l'autre, avec tout ce que ça implique d'être vivifiant pour l'autre, ça, c'est une autre affaire. Alors la grande question est-ce que nous n'avons pas un système qui de la même manière que refoule automatiquement ce qu'on ne va pas pouvoir gérer au niveau de la souffrance et de la douleur, est-ce qu'on n'a pas de la même manière un système en automatique qui refoule toute cette joie qu'on aura du mal à gérer et dont on n'est pas sûr d'avoir envie d'être responsable ? Voilà ma grande question. Au psychanalyste, évidemment, mais aussi à tout un chacun qui va chez le psychanalyste pour se plaindre de tout ce qu'il fait souffrir. Et qui peut-être ne s'est jamais posé la question que dans cette souffrance, que cette souffrance même le protège du questionnement ou le protège du réveil, du refoulé de l'autre partie qui est dans l'inconscient. Que plus, je vais le redire, plus on met sa conscience sur l'ombre, plus cette conscience n'a pas le temps de se réveiller à son désir, à sa pulsion de vie et à son désir de joie. Vous voyez le questionnement ? Et donc dans le refoulé, voilà ma thèse. Maintenant, c'est plus un questionnement, c'est une thèse et une hypothèse et une conviction. J'ai découvert sur le chemin que j'ai fait et en psychanalyse, sur le chemin parallèle que j'ai suivi de psychanalyse et de spiritualité, qu'il y avait des deux côtés du refoulé. L'un choisit l'absolu pour éviter l'incarnation et la souffrance. Les douleurs inhérentes à l'incarnation. Et je fais une grande différence entre douleur et souffrance. Car je dis souvent que la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. D'être incarné rend des douleurs inévitables. Mais on n'est pas obligé de les transformer en souffrance. On peut vivre la douleur sans les transformer en souffrance. Et ce que je dis, c'est que j'ai découvert dans les chemins spirituels, dans ces quêtes d'absolu, beaucoup de refoulés de la douleur de l'incarnation, de la douleur inhérente et incontournable à l'incarnation, donc un refus d'incarnation, un refus d'être sur la terre, un refus de la terre. Et de l'autre côté, j'ai découvert qu'à travers toute ce système de croyance d'un inconscient qui ne refoulerait que l'ombre, qu'il y a un énorme refoulé de la lumière, un énorme refoulé de la responsabilité que donne la joie. Et que là, par contre, il peut y avoir une espèce d'habitude de la souffrance qui, paradoxalement, revient au même refoulé de la douleur. Parce que si je souffre, et donc au même refoulé de l'incarnation. Suivez-moi bien. Parce que si je souffre, c'est-à-dire que je refuse d'admettre que la douleur est inhérente à l'incarnation, CQFD, cette intoxication à la souffrance est également une manière de refuser l'incarnation. L'auriez-vous cru, des deux côtés, ce qu'on appelle des gens athées ou laïcs, ou ce qu'on appelle des gens spiritualistes ou croyants, des deux côtés, on retrouve le même refoulé de l'incarnation. Voilà la thèse que je soutiens. Et que donc le plus grand problème chez les athées sur divan ou chez les spiritualistes en assise contemplative, c'est de se poser la question de leur acceptation de l'incarnation, qui pour moi est directement liée à pour moi, cette difficulté à accepter l'incarnation et donc la douleur inhérente à l'incarnation, qui va conduire à s'intoxiquer à la souffrance ou à l'absolu, vient de la même nostalgie. La nostalgie fusionnelle. La nostalgie de ce que j'appelle de l'ailleurs. Alors ça, c'est la deuxième partie de... J'ai vu que sur les programmes, ils avaient mis les deux titres. En fait, j'avais dit que c'était ou l'une ou l'autre de conférence. Parce que c'est bien difficile, en 50 minutes, de parler de l'ombre et de lumière de l'inconscient et en même temps de la nostalgie fusionnelle. N'empêche que, comme c'était sur le programme, j'ai essayé de raccorder les deux. Donc, voilà, j'arrive à l'endroit du raccord. Mais avant peut-être de passer à l'autre, est-ce que vous avez quelques questions sur ce petit bout de ombre et lumière? Est-ce que ça vous choque complètement? Enfin, moi, quand je vous ai vu tout cela, je me suis dit, bon, moi, je suis pas tellement connue, donc je me suis dit, ça doit être parce que, quand même, lumière, ça fait tilt. C'est que, quelque part, ce questionnement doit être aussi en vous, qu'il n'y a peut-être pas que des ombres dans l'inconscient, mais aussi un refoulé de lumière.
Bonjour.
J'aime
bien votre énergie.
Merci.
La dynamiste. Moi, ce qui m'intéresse, ce que vous dites, c'est que d'un point de vue, purement physiologique, c'est que on a un système qui nous préserve justement de, en quelque sorte, de la joie et du bonheur, c'est l'hypothalamus. Mm-hmm. Comme l'inconscient, enfin, le système du site qui est mortel, il va se passer beaucoup de temps à vérifier, se rappeler que ça, ça s'est fait du danger, que ça, c'est pas agréable. Et quand il y a de la joie et du bonheur, c'est normal.
Absolument.
Donc, on ne peut pas mémoriser au même endroit. Mm-hmm. Et donc, c'est vraiment tout un travail de réapprentissage, de se souvenir qu'il y a des bonnes choses et qu'on peut y avoir accès, même dans l'inconscient, même en pensée, de la positive.
Absolument, et je suis très contente que vous souligniez que c'est un processus physiologique. Bon, moi, je suis pas rentrée dans le champ hormonal, mais je dis souvent dans mes cours qu'il s'agit de s'habituer à l'endorphine. Donc, ça revient un petit peu au même. Il s'agit de s'habituer à l'endorphine et de sortir de l'intoxication à l'adrénaline. Donc, vous avez absolument raison de le situer dans le champ physiologique, mais je voudrais le remonter sur le plan philosophique. D'abord, finir ce petit bout qui nous montre combien c'est le corps qui est l'intermédiaire. C'est pour ça que j'ai quand même pas voulu zapper la partie corps dans l'interrogation à laquelle je suis arrivée. C'est pour dire que si j'y suis arrivée, c'est parce que j'ai eu la chance tout de même d'un psychanalyste qui a réinscrit du corps sur le divan. Et que ça aurait pu être l'objet du débat. Le corps et le divan, c'est un grand débat. Mais je le laisse à d'autres. Mais si on accepte dans un consensus ici, que oui, il faut qu'il y ait du travail du corps pour que le corps se réhabitue à son endorphine, ne serait-ce que, bon, méditation, lever de soleil, choses artistiques, qu'importe, quelque chose où le corps retrouve de la jubilation. Donc, si on se met d'accord que ça doit passer par un recontact avec le corps dans le champ psychanalytique ou dans le champ thérapeutique, philosophiquement, ça monte, pour monter d'un chouille votre questionnement, on voit qu'on est là face à un grand questionnement sur la pulsion de vie et la pulsion de mort. Philosophiquement, ce qui se pose comme vraie question derrière tout ça, c'est notre système de croyance sur la pulsion de vie et la pulsion de mort. C'est pour ça que j'ai vite inscrit rapidement que mon psychanalyste, là où il y a eu un frottement, c'est sur la question de la réincarnation.
Mais est-ce que justement, d'un point de vue anthropologique, on n'est pas arrivé à notre époque, justement, à une situation où on est plus dans une sorte de précarité? On sait qu'il y a toujours de la misère, il y a toujours de la guerre, mais on est quand même, pour certaines cultures comme la nôtre, on est quand même relativement préservé, moins exposé que d'autres. Et donc, on peut s'adonner à prendre du temps à s'organiser et à se trouver d'autres réflexions et d'autres plaisirs.
Eh bien, c'est peut-être ce que vous dites montre que peut-être l'enjeu de l'Occident par rapport à l'Orient, que l'enjeu de l'Occident serait peut-être d'amener cette conscience de la joie de vivre ici-bas, sur Terre, dans la dualité et dans la relation à l'autre, en récupérant ce qui a des outils de l'Orient, mais en les amenant, en permettant à cette joie de vivre, et c'est, moi je pense que c'est le rôle de l'Occident de le faire, que c'est notre renouvellement des pensées orientales, parce que si c'est pour aller vers l'absolu et vers Yadlin, qui est la paix, la sérénité aussi, sans que ça puisse se vivre dans la joie de vivre avec l'autre, l'un empêche l'autre. Donc je pense, quand vous dites que nous avons cette chance, entre guillemets, que cette chance est pour moi simplement le signe que c'est le rôle de l'Occident d'amener dans la spiritualité comme dans la psychanalyse, cette récupération de notre, ce retravail au niveau de l'inconscient pour le libérer de son désir de joie, c'est notre rôle.
Et vous voyez, même dans les mots, je passerai la parole à vous, mais même dans les mots, vous parlez, à mon sens, c'est un peu plus beau, parce que vous parlez d'accord, vous avez dit plusieurs fois d'accord, moi dans d'accord, il y a le mot corps, et quand on parle de spiritualité, de notre culture, la spiritualité, c'est à la fois cette dimension suprême, mais c'est aussi ce qui est drôle.
Ce qui est drôle, oui.
Et on oublie que, et je pense que c'est la spiritualité, c'est ça, c'est aussi d'avoir cette légèreté, en étant dans cette conscience d'être, et le fait d'être dans cette légèreté, on n'est pas des bœufs ni des idiots, au contraire, on peut être léger.
À une condition que cette légèreté réussisse à s'incarner dans la relation à l'autre. Alors c'est là que la spiritualité a quelquefois raté son petit bout, c'est là qu'elle a peut-être un petit peu dévié par moment, de la même manière que lorsqu'on va de l'autre côté, on dévie aussi. Donc moi, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut qu'on réussisse à rapprocher les contraires.
Comment guérir de la
nostalgie fusionnelle? Je m'en doutais. Oh, je m'en doutais. Vous allez m'excuser profondément. Je vais être obligée de faire un peu ma pub, mais là, il est moins le quart et on va m'arrêter à moins 10. Je fais une conférence là-dessus samedi soir au centre Tapauvent. Comment guérir de la nostalgie fusionnelle? Je savais que je pourrais pas faire les deux, mais je voulais en parler quand même. Alors, je vais vous le dire quand même. Enfin, je vais vous dire en deux mots, parce que c'est vraiment la clé profonde. C'est vraiment la clé la clé pour pouvoir rapprocher l'un de l'autre, c'est vraiment de guérir de la nostalgie fusionnelle, parce que j'espère que j'ai réussi à vous montrer que chez l'un comme chez l'autre, c'est-à-dire du côté psy, souffrance, comme du côté spiritualiste absolu, nirvana, la difficulté finalement se retrouve la même, de refus de l'incarnation, et à mon sens, et c'est mon hypothèse, pour la même raison, nostalgie fusionnelle. Alors que nostalgie fusionnelle psy, c'est papa-maman, et que nostalgie fusionnelle, c'est le corps de Dieu, le cosmos et les étoiles, ça n'empêche que c'est la nostalgie fusionnelle qui empêche cette incarnation de la joie et cette sortie de la souffrance qui passe par l'acceptation de la douleur, et du manque, et de la séparation, et j'en passe, et des meilleurs dont je parlerai samedi soir. Mais pour faire vite, et tout de même pas vous laisser comme ça, guérir de la nostalgie fusionnelle, c'est de renoncer à la toute-puissance, c'est de renoncer au tout. Pour guérir de la nostalgie fusionnelle, il faut sortir de la notion du tout. Et il faut réussir à passer de la conscience du tout à la conscience de l'un. Alors, je vais traiter ça samedi soir. Et il faut comprendre que être quelqu'un qui a un sentiment d'être unique, d'être un, d'être unifié, d'être pas séparé et dans le traumatisme de la séparation, ça ne veut pas dire que parce que je suis unifié, que je suis tout. Donc, quelque part, il faut avoir d'abord compris par la logique ça, parce que nous, occidentaux, on travaille beaucoup par la logique. Et si pas par la logique, il faut prendre un point de vue plus métaphysique, et ça, je peux vous l'expliquer plus longuement par ailleurs, comment métaphysiquement, le tout n'est pas l'un. Mais vous voyez que ça demanderait toute une conférence. Mais ce qui est certain, c'est que il faut déjà avoir envie de se réconcilier avec son incarnation sur la Terre en dépit de papa-maman et de tout le reste. Et de dire, moi je dis souvent, rien, quels qu'aient été nos parents, le fait qu'on soit vivant mérite déjà d'honorer son père et sa mère. Même la Bible n'a jamais dit qu'il fallait les aimer. De les honorer, c'est-à-dire de dire merci, d'avoir de la reconnaissance parce qu'on est vivant. Et tant qu'on ne peut pas se regarder dans la glace et se dire, si demain on me donnait l'occasion de ne plus vivre, est-ce que je dirais oui? Et pouvoir répondre, non, c'est moi qui me remets au monde, c'est moi qui choisis d'embrasser la vie, on ne sort pas vraiment de sa guérison. Il faut se réconcilier avec sa naissance.
parlez de responsabilité de la joie, qu'entendez-vous par responsabilité?
Eh bien, écoutez, ça, je peux vous en parler aussi très, très longuement. Si on n'a pas entendu dans le fond, c'est qu'est-ce que j'entends par responsabilité vis-à-vis de la joie? Quand on embrasse cette force de vie, cette pulsion de vie, on le sait que sur la Terre, tout est duel, tout est en dualité. Donc on sait que la pulsion de mort va constamment provoquer notre pulsion de vie. Donc déjà, c'est un état de vigilance énorme à ne pas se laisser prendre au piège des pulsions mortifères. Donc c'est ça demande déjà de prendre un énorme engagement à la vigilance et à la résistance. Ça demande de devenir un vrai résistant à la pulsion mortifère qui par la porte ou par la fenêtre va venir nous chercher. Car comme disait monsieur tout à l'heure, on sait qu'on est mortel. Donc même si d'un point de vue spirituel on sait qu'on est immortel, n'empêche que on est mortel. L'un n'empêche pas l'autre. Car les deux sont vrais, mais de corps, nous sommes mortels. Donc, cette pulsion mortifère, elle travaille en nous 24 heures sur 24. Mais tant qu'on n'a pas rendu l'âme, la pulsion de vie aussi. Donc, c'est un choix de tous les instants. C'est un choix radical de tous les instants, de choisir la vie contre la mort tant qu'on n'est pas mort. Ça demande déjà un engagement profond. Après, ça nous demande d'être responsable vis-à-vis de l'autre. Parce que ces pulsions mortifères, c'est l'autre que ça plombe. Nous, ça nous fait du bien, quelque part, de nous laisser aller, de temps en temps. Mais ça plombe l'atmosphère. Donc, c'est devenir extrêmement responsable, écologiquement parlant, j'allais dire, de l'atmosphère. Si moi, je porte mon droit à la souffrance comme un badge, et que ça me donne des droits à me laisser aller, eh bien, je ne suis pas responsable écologiquement de l'atmosphère. Ça demande un éveil de conscience, j'allais dire écologique, au sens spirituel du terme. Eh bien, c'est très fatigant, c'est très excitant. Mais je veux dire, c'est très exigeant. Et c'est souvent parce qu'on n'a pas envie de porter cette responsabilité de l'atmosphère, donc de l'univers, cette responsabilité vis-à-vis de l'autre qui commence. Vous savez que quand on est ensemble comme ça, il y a des bouts de foie, des bouts de poumon, des bouts de tout qui sont en train de s'échanger. Vous réalisez ça? Ça, c'est vous dire combien, comme Lacan avait raison de dire, il y a de l'un. Ça ne veut pas dire tout, mais il y a de l'un. Donc, nous sommes là en train de faire des échanges organiques. Vous vous rendez compte de la responsabilité de ce qu'on passe à l'autre? C'est ça la responsabilité de la joie. C'est qu'à partir du moment où on accepte de faire ce choix, qui est un choix radical quelque part, qui demande un long travail de guérison, de la nostalgie fusionnelle, une guérison du cœur, tout ça c'est dans le deuxième bouquin, donc je fais vite, qui demande effectivement un processus de guérison, mais processus, il peut prendre tout le temps qu'on veut, mais le choix, il doit être radical. On peut prendre tout notre temps à guérir, mais il faut savoir dans quelle direction on va. Et quand je dis qu'on fait ce choix de la pulsion de vie, et ça demande de libérer, de se refouler de la joie, c'est de se refouler de la lumière qui est dans notre inconscient. Mais on ne peut le libérer que si on arrête de croire qu'il n'y a que de l'ombre dans l'inconscient. Si on maintient le système de croyance, c'est pour ça que je commençais à vous rappeler au début l'inconscient comme refoulé. Si on maintient ce système de croyance, qui est finalement qu'une théorie psychanalytique, si on ne fait pas bouger la théorie en disant « et si l'inconscient était aussi le lieu du refoulé de la pulsion de vie ?» Parce qu'on a peur de vivre autant qu'on a peur de souffrir. On n'a pas que peur de souffrir, on a peur de vivre et de prendre la responsabilité d'avoir une vie intense, d'avoir une vie qui n'est pas justement dans l'inertie, dans le lâcher-prise, qui sont tous des formes de pulsion de mort. C'est une paresse, ça nourrit la paresse, c'est pour ça que c'est un péché capital, la paresse. On me demande souvent, mais pourquoi la paresse est un péché capital? Mais parce qu'elle est le premier lieu de la pulsion de mort. Bon, ben tant pis, hein. Bon, ben c'est comme ça, c'est la vie. On n'y peut rien. C'est donc, c'est là qu'à partir du moment où on accepte l'idée, juste, l'idée que peut-être on a refoulé la pulsion de vie. Moi, ça me suffirait que vous repartiez avec la question. Moi, j'ai une conviction. Mais moi, ça me suffirait que vous partiez avec ce questionnement. Et si on refoulait aussi la pulsion de vie, si on refoulait cette force de vie qui demande de vivre intensément, de vivre dans la joie intense, humaine, pas celle de l'absolu. Alors, moi, je peux vous dire comment j'en vois des gens depuis que je fais ce travail. Mais c'est si fatigant. Et donc, devenir responsable de ça, c'est vaincre la paresse, la léthargie, qui sont autant de lieux où la pulsion de mort s'installe dans le corps. Je vous entends pas.
Est-ce qu'il y a quelque chose un peu plus basique, mais en fait, ce dont on parle, là, c'est est-ce qu'on voit le coup de puissance, le 1, le tout, le 1, est-ce qu'on n'est pas là aussi de la castration et de la symbolique aussi?
Il y a certainement moyen de le rapprocher de la castration et de la dette symbolique. Et puis, simplement, pour parler encore plus basique pour certains qui ne connaissent pas ces termes, du manque. Du manque. Simplement du manque. Mais moi, alors là, bon, j'ai pas pu reprendre tout ça, mais je dis qu'une des solutions, justement, c'est l'acceptation. C'est pas seulement l'acceptation du manque, c'est la joie du manque. C'est Dieu merci qu'il y ait du manque. Parce que sinon, il n'y aurait pas de place pour la relation. J'aurais pas de place pour m'approcher de l'autre si j'étais pas manquant. Ben oui, c'est la psychose totale quand il y a pas de manque. Alors, faire comprendre à des spiritualistes que la séparation est une bénédiction est aussi difficile que de faire comprendre à des athées que c'est une bénédiction que de manquer. Parce qu'eux, ils essayent de compenser le manque par l'avoir. Donc c'est aussi difficile pour ceux qui ont choisi l'avoir comme compensation du manque que pour ceux qui ont choisi l'être comme compensation du manque. C'est aussi difficile de le faire comprendre que la joie n'arrive que quand on est content, pas quand on l'accepte, quand on bénit tous les jours la séparation et le manque.
Donc, ça, pour moi, ça me paraît
logique.
Déjà s'inscrire, donc, effectivement,
dans la castration.
Dans le... Ceci me paraît pas s'inscrire dans une nouveauté, ce serait la castration du manque et de la dette symbolique. Par contre, là où je vous rejoins, et ce qui me paraît intéressant, parce que d'après les propos du dernier livre de Charles Ménage, je sais pas si vous avez entendu la notion de gravité, je l'ai rajouté, où effectivement, il évoque quelque chose autour de la psychose sociale, qui vient de dans une impossibilité, où effectivement, la pulsion du mort gagne. Alors, effectivement, l'idée peut être intéressante, de, comme vous dites, peut-être à l'Occident, oui, de se réapproprier peut-être d'autres croyances. Effectivement, on proposait le lien et le
fait
à d'autres membres qui ne sont pas les mêmes. Et pourtant, on vient encore de se lever à la joie, moi-même, ayant été en Inde et on vient à partir de 10, je peux l'entendre. Mais voilà, la question de l'impression, c'est comment pouvoir lier les deux et en même temps dans les mouvements,
oui,
aussi, oui, la culture aussi.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, j'ai pas grand chose là à répondre qu'à dire que c'est vraiment, je crois, le défi aussi bien spirituel que psychanalytique de l'avenir, que de faire que l'un n'empêche pas l'autre, sans qu'il y ait chez les uns le refoulé de l'un et chez les autres le refoulé des autres. Grosso modo. Ceci étant dit, j'ai juste envie de rebondir un tout petit peu sur quand vous me dites qu'il n'y a rien de neuf sur l'histoire de la castration et de la dette symbolique. La seule chose qu'il peut y avoir de neuf, c'est pas que je veux absolument encore que le renouvellement, le chidouche pour les kabbalistes est quelque chose qui est presque une obligation. Donc si je me revendique d'ajouter quelque chose de neuf quand même, qui est que ce qu'il y a de neuf, c'est qu'il ne suffit pas d'accepter la castration et la dette symbolique pour être quelqu'un de la joie dans son corps. Et que donc, là encore, et ça on le voit trop souvent chez beaucoup de psychanalystes, c'est pas parce qu'ils ont accepté le manque et la castration qu'ils sont sourissants et joyeux et pleins de vitalité et avec un corps dont on a envie de s'approcher. Pour un hug, hein, pas plus, juste pour un... juste sans cœur, rien d'autre. Donc, je pense qu'il ne suffit pas d'avoir réinscrit ça dans la dette symbolique. Peut-être que j'ai pas été assez longue dessus. C'est que si on ne recale pas le corps dans la compréhension de la castration, enfin dans l'intégration de la castration, on ne sera pas quelqu'un de joyeux. On sera peut-être serein, mais pas joyeux. Et je fais une grande différence entre la sérénité et la joie de vivre. J'entends pas bien. La dernière question. Je savais qu'il fallait aller vite. Bon, alors samedi soir pour la suite. Je suis désolée.
Non, juste pour refaire, pour rebondir sur effectivement cette histoire de joie qu'on peut peut-être avoir en ayant une tête, en étant chez la psychanalyse, peu importe, mais je crois que si comment se défaire des siècles de culture chrétienne, le corps.
Ah, d'accord, j'entends votre question. Mais vous allez être surprise, mais si vous avez l'occasion de lire mon deuxième livre, je serais ravie de poursuivre là-dessus. Je dis, moi, que ce qui est étonnant, enfin, pour récupérer culturellement ça, en tous les cas, moi, c'est comme ça que j'y suis arrivée, c'est en passant par la Kabbale, qui est la grande source ésotérique de notre tradition occidentale, et je pense un grand refoulé de la culture occidentale.